Votre matinale continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
8h pile avec vous, David Decamp. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Un système parallèle de sécurité du chef de l'État, le projet d'une sorte de garde présidentielle autonome, le rapport du Sénat sur l'affaire Benalla est accablant, l'Élysée lourdement mis en cause, peine à trouver la bonne réponse. Page complète dès le début de ce journal. Une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Déclaration d'Emmanuel Macron au dîner du CRIF. Il annonce une loi pour contrer la haine sur Internet. Et enfin, Nikos, vous êtes-vous déjà battu en duel au sabre laser? C'est très sérieux, figurez-vous. La discipline est désormais reconnue comme un sport officiel.
À 8h12, Vincent Herouet, Vladimir Poutine menace de déployer ses nouveaux missiles contre l'Occident. Il nous dira pourquoi. Il nous dira pourquoi. Et à 8h15, pour lui, l'affaire Benalla est un mensonge d'État en bande organisée. Audrey Crespo-Mara recevra Benoît Hamon.
Europe 1.
Commençons ce journal par une archive. Le président de la République était le 6 novembre dernier notre invité sur Europe 1. Écoutez ce qu'Emmanuel Macron déclarait à l'époque sur l'affaire Benalla.
Tout ça, ce sont des faits graves. Mais un, l'Élysée n'a rien caché. Deux, il n'est pas intervenu sur demande de l'Élysée dans une manifestation. Il n'y a pas de milice de l'Élysée, c'est faux. Trois, il n'y a jamais eu de sécurité privée ou de milice privée à l'Élysée.
Sauf que c'est précisément le reproche du rapport de la commission d'enquête du Sénat. Bonjour Alain Accaud.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Les sénateurs dénoncent la place excessive prise par Alexandre Benalla dans la sécurité du président de la République. Et puis il y a ce projet. L'ancien chargé de mission voulait créer une sorte de garde présidentielle totalement autonome.
Oui, une sorte de secret service à la française. Le secret service, c'est l'agence qui assure la protection du président américain. Une agence fédérale, très puissante, quasi indépendante. Tout le contraire de la sécurité de l'Élysée, dont l'organisation, c'est vrai, a quelque chose d'ubuesque. Il y a d'un côté le commandement militaire qui surveille l'enceinte du palais, de l'autre le GSPR qui protège le chef de l'État quand il est en déplacement. Deux structures dirigées par deux généraux de la gendarmerie, mais le GSPR, qui est composé moitié policier, moitié gendarme, est rattaché à la direction de la police. Vous me suivez toujours?
Ouais.
Vous comprenez pourquoi la Cour des comptes a demandé de rationaliser tout ça et pourquoi l'Élysée et Benalla voulaient rassembler tout dans un seul et unique service?
Bah alors, Alexandre Benalla, il voulait bien faire. Quel est le problème?
Le problème, c'est sa volonté affichée de faire de ce service de protection une unité totalement autonome, une garde présidentielle qui ne serait pas uniquement composée de policiers ou de gendarmes, comme aujourd'hui, mais qui serait ouverte à d'autres profils, à d'anciens militaires, par exemple, ou à des professionnels de la sécurité privée. Les sénateurs considèrent, eux, qu'il ne faut surtout pas rompre le lien entre la sécurité du chef de l'État et le ministère de l'Intérieur. Ils soulignent d'ailleurs dans le rapport que les responsables de l'Élysée, entendus par la Commission, ont fermement démenti tout projet dans ce sens, toute volonté, je cite, de créer une milice barbouzarde, une garde prétorienne. Tout ceci ne serait qu'un fantasme. Reste que ce projet explosif a suscité beaucoup d'inquiétudes et de rancœurs dans la police, et tout porte à croire que c'est ce projet qui a suscité des fuites dans la presse et finalement provoqué la chute d'Alexandre Benalla.
Merci à vous Alain Accaud pour ces informations.
Et ce rapport, David, met l'Élysée dans une position délicate sur le plan politique.
Oui, même impossible. Il y a Benalla, il y a les accusations de parjure sur plusieurs hauts responsables du palais. Bonjour Michael Darmon.
Bonjour.
La réaction de l'Élysée tarde à venir, comme si l'entourage du président était sonné.
Oui, on accuse le coup à l'Élysée. Le Sénat a mené un coup politique, dit-on, en replaçant l'affaire au cœur du fonctionnement du palais, où on dit ne pas être dupe du tout de l'opération. Le fonctionnement de l'Élysée, il le savait, c'était la ligne d'enquête depuis le début donc, des travaux, d'où cette conclusion. La sécurité du président a été mise en danger. Les intérêts stratégiques même ont pu être fragilisés par des influences étrangères à cause des contrats russes. Et le cœur de la machine élyséenne est mis en cause. N'ayant pas tout connu du rapport, le porte-parole donc, du gouvernement s'en mêle des pinceaux, mais il existe, il faut savoir, une autre analyse plus officieuse auprès du président. Mmh. Alexandre Benalla a bien été un précieux soutien durant la campagne, mais il a échappé au contrôle. Sa proximité avec le président, le cloisonnement à l'époque des faits de la machine élyséenne, a permis donc à Alexandre Benalla de profiter de tout ce qu'il a fait, de pouvoir donc s'organiser comme il le voulait, d'où la vaste restructuration au sein du palais qui a été lancée, mais cette affaire continue de toucher l'équipe présidentielle. On comprend bien effectivement que pour l'Élysée, l'affaire Benalla, c'est un crash politique, parce qu'en fait, il a fait confiance à une personne, mais aujourd'hui, cette affaire empêche le président de montrer qui n'était pas un président comme les autres.
Merci Michael Darmon. J'ajoute que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles révèle qu'Alexandre Benalla a également signé un contrat de sécurité avec une société chinoise pour un montant de 7,2 millions d'euros. Il s'agit d'un groupe réputé proche de l'appareil d'État chinois. Les noms d'autres protagonistes pourraient apparaître dans ce dossier.
Le discours du président de la République au dîner du CRIF hier soir.
Oui, devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, le chef de l'État a annoncé l'adoption prochaine d'une nouvelle définition de l'antisémitisme, prenant en compte l'antisionisme, même s'il a répété qu'il n'était pas question de rendre pénalement répréhensible la critique d'Israël. Plus généralement, Emmanuel Macron a qualifié la vague d'actes anti-juifs qui déferlent en France en ce moment. On l'écoute.
Notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cet inacceptable, il serait faux de dire que nous n'avons rien fait. Nous avons condamné beaucoup, adopté des plans, souvent, depuis des années et des années, voté des lois parfois, mais nous n'avons pas su agir efficacement. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien pour cela. Trop d'indignation. Trop de mots, pas assez de résultats.
Le président de la République a aussi annoncé la présentation en mai d'une loi pour contrer la haine sur Internet. En cause, la responsabilité des grandes plateformes comme Facebook ou Google. Quelle est la situation aujourd'hui ? Des progrès ont été faits ces derniers mois, mais le problème est loin d'être réglé. François Geffrier.
Des armées de modérateurs. Ils sont 10 000 employés chez Google au niveau mondial, 15 000 chez Facebook. Twitter a fait de la modération sa priorité numéro 1 cette année et les résultats communiqués par les géants du net montrent de vrais progrès. De fin 2017 à fin 2018, Facebook a multiplié par 2 le nombre de suppressions de contenus haineux de ses pages en portant ce chiffre à 3 millions de textes ou d'images au total. Sur YouTube, en 3 mois, 8 millions de vidéos et 224 millions de commentaires ont été effacés dans le monde car ils ne respectaient pas les règles. Mais ces règles, justement, sont souvent celles que les plateformes elles-mêmes ont écrites. Le gouvernement veut que cela corresponde à l'éthique et à la loi française. Il réclame plus de transparence. Il réfléchit à des sanctions si les contenus haineux ne sont pas retirés assez vite. Pour ça, les géants du net s'appuient de plus en plus sur la détection automatique, l'intelligence artificielle qui apprend à reconnaître ce qui peut poser problème. Ainsi, sur YouTube, 6 vidéos litigieuses sur 10 sont retirées avant même d'avoir été vues par des internautes.
François Geffrier pour Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, c'est un sommet historique qui s'ouvre aujourd'hui au Vatican. L'Église catholique va se confronter au fléau de la pédophilie. A tout de suite.
Cette semaine dans Challenge,
les réseaux de pouvoir et le grand retour des francs-maçons, notamment autour d'Emmanuel Macron. Challenge a également enquêté sur la mainmise de l'ENA, sur l'appareil d'État et les nouvelles solidarités des milieux tech et LGBT. Des secrets bien gardés dévoilés dans Challenge.
Multipliez les bons plans pendant les jours Megamix chez Géant. Jusqu'à dimanche, pendant les heures géantes de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de 30% de remise sur les fruits et légumes de l'espace marché. Oui, moins 30% sur tous les fruits et légumes de l'espace marché. Faire le plein de vitamines et de bons plans, ça c'est... Géant.
Remise sous forme de bons d'achat hors promo en cours. Voir conditions et magasins participants sur géantcasino.fr.
Vital, c'est le livre événement du docteur Frédéric Salmann. Réussir sa vie, c'est bien, mais réussir sa santé, c'est vital. Vital, ce sont les nouvelles découvertes médicales pour perdre du poids facilement, retrouver le sommeil, une sexualité épanouie et des règles d'hygiène réellement protectrices. Oui, c'est sûr, après avoir lu Vital, vous serez tout neuf, prêt pour un nouveau départ. Vital du docteur Salmann, c'est votre bible santé. Un livre Albin Michel, déjà numéro 1 des ventes.
Nicolas Aliagas.
La suite du journal, David Doucan, pédophilie dans l'Église. Le Vatican ouvre aujourd'hui un sommet historique.
Oui, le pape François a convoqué les 114 présidents des épiscopats. Ils viennent du monde entier. 3 jours et demi de séminaire, avec au cœur des débats la notion de responsabilité individuelle des prêtres face aux agressions sexuelles sur mineurs. Le souverain pontife a choisi pour cela une méthode qui reposera sur l'écoute des victimes. Le français Olivier Savignac, abusé par un prêtre lorsqu'il avait 13 ans, a été reçu hier soir par des responsables du Vatican pour préparer le sommet. On l'écoute.
Je crois que le fait d'avoir été entendu par ces prélats qui sont quand même les chevilles ouvrières du Vatican sur la question des abus sexuels, c'était pas rien. Et je crois que chaque témoignage de chaque victime a été très fort. Et j'ai senti que c'est sûr qu'ils s'alourdissaient sur leur chaise. C'était difficile pour eux d'entendre ça. Mais en même temps, ils sont au pied du mur. Donc on est là pour appeler chaque évêque à d'abord écouter les victimes. C'est la première des choses, se rendre compte, faire cette expérience-là du témoignage. Donc on met les victimes au centre avant tous les autres problèmes. problème. Et ce sommet, c'est un peu le sommet de la dernière chance. Alors, c'est sûr qu'on attend des actes. Il y a un droit canon. Et ce droit canon, il prévoit quoi? Il prévoit des sanctions à l'égard des prêtres ou des clercs fautifs. Donc, ce qu'on attend de l'Église, c'est qu'elle applique elle-même son propre règlement. La tolérance zéro, où est-elle? Elle soit vraiment appliquée à partir de lundi prochain. Parce que pour l'instant, elle ne l'est pas.
Un témoignage recueilli par Blandine Hugonnet pour Europe 1. La situation se tend au Venezuela. Juan Guaido veut se rendre physiquement avec ses soutiens aux frontières pour faire entrer l'aide humanitaire malgré l'opposition de l'armée. Les risques de violence ont poussé Air France à annuler jusqu'à nouvel ordre ses vols à destination de Caracas. Et enfin, Nikos, une question pour finir ce journal. Êtes-vous plutôt du côté clair ou du côté obscur de la force?
J'ai comme la lune, il y a deux faces.
C'est ça. La lune que vous avez prise en photo cette nuit, on a vu cette image.
Et que j'ai postée. Oui,
c'était très beau. Alors, merci. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que les duels, vous pourriez me demander, duels au sabre laser sont...
Mais pourquoi David
voilà.
Doucan?
Les duels au sabre laser sont désormais une discipline sportive officielle.
J'ai vu ça, ouais,
voilà. C'est annonce faite par la Fédération Française d'Escrime. Il y a des tournois, une centaine de clubs en France, de nombreux licenciés. Reportage Théo Manval.
Une pièce plongée dans la pénombre, des adversaires qui s'affrontent à coups de barres lumineuses. Enfin, le sabre laser est reconnu comme sport officiel, sourit Adrien Cor, fondateur de la toute première ligue de combat dans l'Hexagone.
Il y a des points, il y a des fautes, il y a un règlement. La tête, les bras et le tronc rapportent différents montants de points. Et voilà, il faut aller chercher la touche sur les différentes zones.
Pour investir dans votre sabre en plastique ultra résistant, comptez entre 100 et plus de 500 euros. Il y a déjà des tournois internationaux. Amaury Moutajib est par exemple tenant du titre de l'Open de Paris.
Il faut beaucoup de concentration. Ça devient compétitif de manière internationale.
Ça change quoi concrètement pour vous que ce soit reconnu comme un sport de combat officiellement?
Ça apporte une crédibilité, c'est sûr. On est quand même pris pour des types qui font mumuse avec des trucs qui s'allument, mais c'est sérieux. Tous les élèves qui le pratiquent le savent.
Des licenciés qui sont déjà plus d'un millier selon la fédération, et ça commence dès le plus jeune âge.
J'aime bien Star Wars, c'est pour ça que j'aime bien le sabre laser. J'ai l'impression que c'est vrai, que je suis dans le film.
Et alors vous êtes du quel côté de la force?
Moi je suis méchant. Sabre rouge.
Du côté clair ou obscur, la Fédération Française d'Escrime espère doubler le nombre de licenciés sabre laser d'ici deux ans.
Théo Manval pour Europe 1. Et enfin, une information, le Paris Saint-Germain change de sponsor, All A2L. C'est le programme de fidélité du groupe hôtelier Accor. Cette marque ornera le maillot des joueurs parisiens la saison prochaine en remplacement de l'actuel Fly Emirates. On peut voir cela comme un clin d'œil. Je vous rappelle que l'actuel patron du groupe Accor, Sébastien Bazin, était l'ancien actionnaire du PSG avant l'arrivée des Qataris. Pas de montant communiqué pour l'instant pour ce contrat.